Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. C'est Benjamin Constant qui disait, il y a longtemps déjà, c'était en 1819, lors d'une conférence au Cercle de l'Athénée, il a dit ceci, Benjamin Constant. Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie. C'était là ce qu'ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. Et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. Voilà, on peut mesurer là à quel point la notion de liberté de l'Antiquité, celle qui a permis la démocratie et la République, c'est-à-dire donner la liberté aux citoyens pour décider de leur sort, est devenue les libertés individuelles avant tout, c'est-à-dire, comme l'avait déjà deviné Benjamin Constant, dès le début quand même du XIXe siècle, il faut le faire, c'est-à-dire cette liberté qui allait préserver en définitive les garanties accordées, comme il dit, accordées par les institutions à leur jouissance personnelle, individuelle. Voilà. Et nous en sommes de plus en plus là, c'est-à-dire que dans la liberté maintenant, ce n'est plus une liberté de décider ensemble de notre sort, mais c'est de pouvoir chacun dans son coin préserver les jouissances personnelles et propres à chacun des individus. Voilà. Et les poètes là-dedans, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, les poètes sont ceux qui ont le sentiment de la liberté le plus absolu, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, celui de pas d'entrave à la jouissance, si cette jouissance, bien entendu, n'est pas une jouissance qui va porter dommage à l'autre, mais également la liberté d'avoir ensemble et de formater ensemble un avenir pour les humains. Alors la semaine dernière, j'avais commencé à présenter une anthologie des poètes du Quercy, publiée par la revue Encre Vive, qui constituait le 567e et 568e numéro d'Encre Vive. C'était un choix proposé par le poète Gilles Lade, donc qui habite Figeac. Ces poètes du Quercy, alors il y a deux volumes qui sont très bien. D'abord, il y a de belles photographies, c'est très bien présenté, vraiment, cette revue Encre Vive est toujours vraiment une revue de haut vol. Alors, cette anthologie, elle rassemble 17 auteurs qui écrivent actuellement. La semaine dernière, j'ai à peine esquissé de parler de cette anthologie avec les poèmes d'Annie Brier et de Michel Cozem. J'ai juste à peine entamé la présentation. Mais il y a, là, vous voyez, 17, c'est quand même beaucoup, ça, 17 poètes dans cette petite, quand même, petit territoire que constitue le Quercy. J'avais donné la définition un peu du Quercy, c'est-à-dire, en gros, c'est le Lot, une partie du Tarn-et-Garonne, une partie de la Dordogne, mais un paysage qui, effectivement, rassemble des véritables chefs-d'œuvre de la nature et chefs-d'œuvre également de la création humaine, où les poètes se sont beaucoup plu dans ce Quercy, de Clément Marot à André Breton. Alors je vais continuer pour lire d'abord les poèmes de Michel Cozem. Michel Cozem. Je n'irai jamais à Samarcande, pourtant j'en ai tant rêvé, et j'ai suivi l'espace scintillant entre ciel et terre, le long chemin de soi, au-delà de la vie et de la loi, pour renaître meilleur. J'ai suivi ce juste rayon de poussière et de poésie qui va tout droit vers l'arche bleue. Ça, c'est extrait de Les mots de la lune ronde, Servet paru aux éditions L'Harmattan. Michel Cozem, toujours. Le feu, telle une maison, une crête qui chemine et danse, où éclosent les oiseaux de braise. Le feu, telle une âme au regard absolu, telle une bête familière et reposante qui sait caresser. Le feu, comme un dialogue avec la forêt au sortir d'un hiver cassant et cruel. Le feu, comme un regard où blottir sa joue, inviter les graines et les plumes pour la fête. Le feu, comme une lumière et une légende, comme un chemin habité par le printemps. Alors ça, c'était très... Alors il met le fenouil dans le Lot, le fenouil ayant été la première demeure de Michel Cozem et d'Annie Brier dans le Lot. Toujours Michel Cozem, j'avance mes doigts pour te toucher, te dire bonjour encore aujourd'hui, pour te souhaiter encore 1000 ans de paix et de bonheur tranquille, là, dans la Sierra de Níjar, au milieu de tous les tiens, Olivier, dont le double est aussi planté dans mon cœur. Alors ça, c'était à propos d'un recueil qu'il avait fait paraître à Encre Vive, la Sierra de Cristal. Michel Cozem toujours, et ce chemin de pierre claire, ouvert et séducteur, s'en va entre les hautes herbes aux hampes blanches et les murets moussus. Vers quel cœur de Cosse ! Il y en a partout qui appellent et prononcent les mots de la beauté. Agitent les fleurs passagères et des nuages innocents. Pourtant, semble-t-il, tout au long, tout au bout, une chose essentielle attend. Voilà. Michel Cozem. Et puis, dans ces poètes du Quercy, je vais, pour terminer la présentation, je vais en choisir deux. Le premier, c'est Jean-Pierre Lassalle. Jean-Pierre Lassalle, qui est venu ici dans ce studio pour présenter ses livres. Jean-Pierre Lassalle, qui est né en 1937 à Padirac. Donc, la Padirac est célèbre par son gouffre, hein, le fameux gouffre de Padirac, d'une famille qui était établie depuis plusieurs siècles à Saint-Céré. Jean-Pierre Lassalle a enseigné la linguistique, l'histoire et l'histoire littéraire à l'université de Toulouse, l'université du Mirail, ce qui s'appelait à cette époque maintenant, s'appelle l'université Jean Jaurès à Toulouse. Et Jean-Pierre Lassalle est mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux depuis 1983. C'est-à-dire que il y a deux mainteneurs qui ont cette ancienneté, et lui est un des plus anciens, donc le plus ancien mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, Jean-Pierre Lassalle. Alors Jean-Pierre Lassalle, c'est un poète aussi, puisqu'il est reçu dans le groupe surréaliste en 1959, c'est un poète surréaliste. Ses liens avec André Breton ont été des liens très étroits, puisqu'il a eu plusieurs missions qui ont été confiées par André Breton, aller voir la bibliothèque d'un tel, etc., etc. Et Jean-Pierre Lassalle fut également proche de Marcel Duchamp et de Jean Lursa, hein, les tapisseries de Jean Lursa, il les connaissait bien, et Marcel Duchamp, hein, souvenez-vous de l'urinoir de Marcel Duchamp. Alors il se passionne pour l'héraldique, hein. Alors il se passionne également pour l'alchimie, la cristallographie et les ordres de chevalerie, puisqu'il est lui-même chevalier des hospitaliers. Hein, chevalier. Voilà. Donc, cheminer parmi les recueils de Jean-Pierre Lassalle, c'est parcourir un monde, et ce sont des mondes recomposés, reformulés, mais qui demeurent des repères du Quercy, ce Quercy qu'il aime toujours et donc il a toujours chanté. Alors je vais vous faire entendre les recueils de Jean-Pierre Lassalle, c'est les poèmes presque, dans Retour de Rodez, et puis Encre vive, il y a eu Les Petites Sémours, et puis le dernier, il y a Le Grand Pentagon, et le dernier, je vais m'en souvenir, La Fuite écarlate, il y a aussi, bien sûr, de Jean-Pierre Lassalle. Voilà. Donc Jean-Pierre Lassalle, je vais vous lire donc les poèmes de Jean-Pierre Lassalle. Ode à Jean Lursa. Quand la première tour s'irore, quand la deuxième tour surgit comme un fanal du Cos, un envol de litorne étonne à peine Jean. Il émerge massif des brumes de l'oubli, et se hisse vainqueur dans notre remembrance, ces mouchetures de pyrite crépitant sur l'immense falaise des lapis lazuli. Il a jeté ses manteaux sur la parée, sur les courtines de calcaire étoilé, et c'est l'embrasement des tours de cristal qui s'anime. Les Afghans, découplés, bondissent et tissent le plus beau des byssus, à l'horizon bleuté des encolures de licorne, il a marché à grands pas sur l'Écosse de l'oubli. Par un sublime franchissement, il a posé son pied sur les tours, à jamais domptées par le seigneur du bleu, prince des laines bleues, des ocres et des chiens fous, prince des bogues et des figues, prince de la calcite, dérobeur de lumière, voleur d'étoiles qu'il jetait sur ses murs, murs désormais vibrants par la chaleur des laines, murs où le regard se prend à traverser toute chose, lorsque je reviendrai autour glacé par le silence, sans Afghans, sans visiteurs, sans ombre ni murmure, le plus haut mur pivotera lentement, longuement, et je dirai à l'ombre éternellement présente qui se dressera lentement, longuement, « Bonjour, Monsieur Lursa ». Non, c'est extrait de poème presque. Alors on voit le ton de Jean-Pierre Lassalle, hein, qui est un ton où chaque mot est pesé. Il y a là une érudition de la langue. Il a toujours pratiqué ça, Jean-Pierre Lassalle, à la fois le surréalisme, mais surréalisme, je ne sais pas si c'est dans l'inconscient, mais dans l'érudition du mot juste, le mot que l'on va chercher et qui est souvent un mot qui n'est pas dans le langage courant. C'est ça. Il faut dire qu'il est linguiste aussi, par ailleurs, hein, Jean-Pierre Lassalle. Et alors, je me souviens maintenant de son dernier titre à Encre vive, c'est « J'en conviens ». Voilà. Et extrait des Petites Sémours, donc toujours Encre vive, « Monde au matin » de Jean-Pierre Lassalle. Un vent léger dans les osmondes, un eau de grave sur le cristal de roche, des lézards bleus dans la lavande, des martres posant leurs pieds légers sur la calcite, des doigts lissant les berles, des avocettes en mal d'amour, des anciens blés à niel et bluets, des aigrettes sur les coupoles de souillac, des chemins lumineux de marcassite, un flux léger de grâce en charriage, la houle des frais labours de blanates, les hautes brumes des tours foudroyées, par-dessus tout à l'agmé des fusains, des ondoyants courants au cirrus bien-aimé, beau et souffle, souple, tout en fluide volute, comme le nom d'Alix l'oiseleur des Longchamps. Voilà le langage de Jean-Pierre Lassalle. Et puis Cédric Le Pinvin, lui, c'est d'une autre génération, puisqu'il est né en 1980, hein, qui est agrégé de lettres modernes et spécialiste de l'œuvre de Thierry Metz. Hein. J'espère que nous aurons le plaisir d'avoir Cédric Le Pinvin à ce micro bientôt. Alors, Cédric Le Pinvin, alors que la mésange gagne sur la foudre, la rivière délitée balaye les branches mortes sur le chemin, de longues veines ocre s'entretiennent sous les pierres du Causse. La terre s'enroule dans l'écharpe sombre des coteaux, le bleu de Prusse qui rafraîchit la nuque du ciel inonde la terrasse où s'amusent des miroirs. Cet extrait de Orage. Et puis extrait de Elle, le givre, ce poème. La nuit, avec ses contrées blanches, porte une coupe d'eau glacée à ce qui reste de ta bouche. Un sursis, et tu cesses de te corrompre. La chair luit dans la plaine comme un reflet immobile. Je ramasse quelques mots avant que l'aube ne recommence son labeur printanier. Et enfin, extrait de Nuit de Peu, de Cédric Le Pinvin, toujours. Je ne comprends pas grand-chose à ce que je suis, à ce que je dis. Je m'étonne encore souvent que ces mains, s'agitant devant moi, soient le prolongement de cette voix intérieure, qui chuchote et chuchote encore des paroles étranges. Nulle histoire, nul message, juste des phrases offertes que je place au milieu d'une page vide, dont je pèse chaque mot, interroge chaque virgule, comme s'il en allait de la forme d'un visage qui me ressemblerait enfin. Cédric Le Pinvin. Tout cela à retrouver dans Les Poètes du Quercy, volume 1 et volume 2, à Encre Vive, le 567e et 568e numéro d'Encre Vive, que je vous invite à vous procurer. Chaque numéro vous coûtera 6,60 €. Voilà, donc, pour les annonces. Je vais maintenant continuer cette émission avec un poète dont je voudrais dire beaucoup de bien. Il s'agit de Philippe Pichon. Alors, Philippe Pichon, il est maître aide-jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Et il est certainement le maître aide-jeu le plus légitime de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, puisque, d'après la tradition de cette plus vieille académie d'Europe, puisqu'elle est née en 1323, c'est vous dire, hein. On a fêté il y a peu donc son 700e anniversaire, 700 ans, une académie de 700 ans, qui s'est maintenue donc 700 ans. Et Philippe Pichon, je disais, est certainement le plus légitime de nos maîtres et jeux, parce que il est prévu donc dans cette académie que le lauréat qui arrive à obtenir trois fleurs soit, d'une façon systématique et automatique, promu maître aide-jeu de l'académie. Voilà. Alors, les maîtres aide-jeu, c'est arrivé par exemple à Victor Hugo, hein, qui a été lauréat de l'académie, et Philippe Pichon a été, je dirais, une multitude de fois lauréat de l'Académie des Jeux Floraux, dans diverses branches, diverses matières, divers genres de poèmes. C'est vous dire, d'une part, à quel point il est persévérant, et d'autre part, à quel point c'est un poète qui, vraiment, a une large palette à sa disposition. Alors, je voudrais louer, donc, cet auteur, Philippe Pichon, qui par ailleurs a une œuvre de plus en plus importante, et j'espère que bientôt il pourra venir ici à ce micro parler de tous ces ouvrages. Et donc je vais simplement aujourd'hui m'attacher à un seul de ces ouvrages. Il s'agit d'un recueil de poèmes qui a pour titre « S'approcher du silence et mourir comme l'on se tait » aux éditions Artavena. Le tout, je ne sais pas, oui, vous coûtera 11,50 €, vraiment, c'est à la portée de toutes les bourses, et je vous invite véritablement à vous procurer ce recueil de poésie. Alors, qui est Philippe Pichon? Je vais passer vite, puisque j'espère que nous aurons bientôt l'occasion d'en parler avec lui d'une façon plus longue et plus large. Il est l'auteur d'une œuvre littéraire qui est une œuvre assez considérable, donc dans tous les genres. Il y a du roman, il y a des récits, il y a des essais, et bien entendu, il y a de la poésie. C'est cette poésie dont nous allons, sur laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui, avec ce recueil, S'approcher du silence et mourir comme l'on se tait. Pourquoi douter que tout est grâce? Il le met avec un point d'interrogation et entre parenthèses. Philippe Pichon, donc maître et jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse et Grand Prix de Poésie du Liban, avec le prix Naji Nahanam en 2024. Alors, ce recueil, qui est un recueil, et j'ai choisi très volontairement, parce que il faut faire place aussi à une poésie de la spiritualité qui peut avoir aussi des accents religieux. Et ce recueil est dédié par Philippe Pichon à frère Pierre Étienne, donc Thésée, et mon grand-oncle, à la mode de Bretagne. Alors en exergue, il y a ceci de l'auteur. Quand mon esprit, lucide encore avec soi-même, va fondre en l'invisible et multiple unité, pardonne-lui, Seigneur, tant de vilains poèmes, si quelques-uns d'entre eux ne sont pas sans beauté. Voilà. On donne le ton un peu du recueil. Silence. Alors, ce silence-là, ce poème, Silence, il a été distingué en mai 2023 d'une fleur de lys. Alors, la fleur de lys, c'est parmi les plus hautes distinctions que décerne l'Académie des Jeux Floraux depuis. Donc 1324, hein, puisqu'il faut un an de plus après l'appel des sept troubadours. Hein. Donc parmi les plus hautes distinctions. C'est une fleur du genre récompensant le meilleur hymne à la Vierge à l'occasion du concours multiséculaire donc de poésie classique de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, donc qui est la plus vieille compagnie littéraire d'Europe, instituée en 1323, comme je disais tout à l'heure. Alors, ce texte a par ailleurs été sélectionné parmi les 100 plus beaux poèmes d'inspiration spirituelle dans l'anthologie poétique établie par la Nouvelle Pléiade dans les Paroles chrétiennes, livre 4, en décembre 2023. Voilà. Alors, je vous lis ce poème. Hymne à la Vierge. Ce poème a été déclamé devant la Vierge Noire de Notre-Dame de la Dorade. Je dis ça pour les auditeurs toulousains, cette magnifique Vierge Noire de la Notre-Dame de la Dorade qui a été merveilleusement restaurée et nous ne pouvons que remercier Monsieur Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, qui s'est vraiment acharné à obtenir cette restauration qui est une restauration merveilleuse. Et cette Vierge Noire dans laquelle sont dédiés chaque année lors de la fête des fleurs de l'Académie des Jeux Floraux. Cette année, ça aura lieu le 4 mai, parce que ça tombe un dimanche et que nous ne pouvons pas donner ce concours donc le dimanche. Donc c'est cette Vierge Noire qui reçoit donc cet hymne à la Vierge. Et il faut espérer que cet hymne à la Vierge continuera dans les centaines d'années qui vont nous succéder. Hymne à la Vierge de Philippe Pichon. Marie, vous souvient-il de votre corps charnel, de vos yeux qui s'ouvraient pour s'aveugler de ciel, de vos pas qui pesaient lourdement sur le sol, à peine, et de vos mains servantes du miracle, à peine, et de cette eau de source qui semblait rafraîchir à la fois la bouche et la mémoire, à peine, et de ces clairs parfums qui voyageaient, et de la rose, apothéose de l'argile, à peine, et de ces fruits qu'on mangeait en rêvant, et des oiseaux heureux qui s'aimaient dans le vent, et du jardin, et de la ruche, et des abeilles qui dérobaient aux fleurs des cristaux de soleil, à peine. Mais de quoi, Marie, vous souvient-il? Il me souvient surtout des quêtes de silence. Philippe Pichon. Sainte Thérèse d'Avila. De toi, je me nourris et de toi, je m'abreuve. Mon corps puise sa vie aux sources de ton cœur. Et mon âme s'embrase au foyer d'une ardeur dont l'univers entier est la divine preuve. Ta main me remodèle une existence neuve qui creuse ses sillons loin de toute rumeur dans le champ du silence où lève le bonheur. En des remous dorés et caressant le fleuve, tel Moïse frappant le sein noir d'un rocher pour en faire jaillir une eau qui désaltère, tu déverses en moi les torrents du mystère. Je m'éloigne de tout afin de m'approcher de l'ogive de gloire où ta beauté fulgure, et c'est aveugle à tout que je vois ta figure. Voilà, un sonnet donc à Sainte Thérèse d'Avila. Vie, seau, couvercle, boucle bouclée, cercler le cercle, vie en allée. La voix s'est tue, l'œil s'est éteint, qui s'habitue à ce destin? Un feu de sel sous les paupières, j'éveillais celle au froid de pierre, que cette neige de fin du monde voile et protège le seuil des tombes. Si près d'ici, si loin aussi, mère, voici que recommence ta longue absence de l'existence. Nous allons passant dans les âmes, comme nous passons dans les champs, à la traverse. Par les matins, par les couchants, par le ciel de nuit, par le ciel de flamme, ou sous l'averse, nous enfonçons nos pas trop lourds dans le sol meuble où l'herbe tremble comme un cœur. Et notre passage ressemble à l'orage sur les labours, quand le grain meurt. Là se révèle notre trace, creusant de sillon en sillon tant de blessures. Ces traces que nous oublions, mais qui saignent de place en place, en plaies qui durent, chaque âme est un champ étranger. Dieu seul peut, s'il nous y amène, lever la herse. Mais il veut que dans son domaine, nous passions humbles, purs, légers, à la traverse. Philippe Pichon. Habillé d'or, taché de sang, un cœur qui souffre et qui pardonne, le vent l'emporte en gémissant, c'est l'automne. L'âme survole son désert, son dépouillement qui l'allège, brille d'étoiles sur la neige, c'est l'hiver. Mais les saisons que l'on oublie, le jour où se ferment les yeux, demeurent dans les mains de Dieu, c'est la vie. Philippe Pichon, s'approcher du silence et mourir comme l'on se tait. C'est le nom du recueil dont je lis maintenant ce poème, le Missel. Cette feuille d'hier, dernier parfum d'automne, se détache, frissonne et tombe dans l'hiver. La nuit glacée accroche à sa robe de lune les épineux chardons que nous laisse l'oubli. À perte de regard, c'est la neige, la dune, où, désolé, s'étend le vide à l'infini. Et je songe aux lointains ouverts dans la mémoire, où s'étendent sans fin les amours, les douleurs, images, souvenirs, cette émouvante histoire où se déplient en nous les pages de nos cœurs, enluminées de pourpre et d'or et d'améthyste, couleur d'un beau vitrail où transparaît le ciel, c'est l'œuvre que le temps, incomparable artiste, a gravée dans notre âme ainsi qu'en un missel, et notre vie est là, que nous lisons encore, sur le texte pâli, gisent les fleurs d'antan, mais l'espérance y brille en un halo d'aurore, car la grâce est inscrite en ce livre vivant. Nous te gardons en nous et dans cet oratoire de notre cœur secret, nous aimons à t'ouvrir, livre de notre vie, missel, vive mémoire, où le signe de Dieu nous apprend à guérir. Alors, doux Seigneur, je t'en prie, garde mon livre ouvert sur la dune infinie de mon âme d'hiver. Philippe Pichon. Les aubes blessées. Alors, il met entre parenthèses, quand Dieu s'est absenté, 1939-1945. Long quai de rêves morts, mon royaume interdit, qu'un serpent de fumée arrache à mon regard. Cimetière d'étreint aux fantômes maudits, glissant comme des pleurs aux joues de mon brouillard. Rail de clarté filant sous les maigres buissons, et vieux wagons perclus de rouille, au ventre creux, gazomètre du soir, tour des vaines chansons, guérite aux aiguilleurs, nid de béton aux cieux. Ainsi, ma force est mon seul bien en cet enfer. Scorie de chant lancée un jour au front de Dieu, dans la plainte des roues, souvenir de feu clair, au rythme monotone des fourgons à bœufs. Voilà. Donc, comment un poète peut transcrire dans le poème ce qu'a été ses convois vers les camps de la mort. Si l'homme n'est qu'un piège, pourquoi le besoin de prier me jette-t-il à vos genoux, puisque de ma nuit, prisonnier, Seigneur, je ne crois plus en vous? Pourquoi avais-je dans vos églises baisé la plaie nue de vos pieds et caché ma peine insoumise à l'ombre triste des piliers? Quelle force vers vous m'attire? Quelles affres? Quels sourds regrets? Est-ce la paix de ce sourire qui clôt votre ultime secret? Votre côté percé du glaive, votre amour trahi par Judas, est-ce l'infini de mon rêve que nul rêve humain ne combla? Seigneur, ce qui vers vous m'attire, est-ce l'absolu du bonheur? Votre amour seul peut-il suffire à tarir en moi la douleur? Soif d'amour, es-tu ce mystère qui jette en pleurs à vos genoux ceux qui, du fond de leur misère, Seigneur, n'osent plus croire en vous? Philippe Pichon. En lisant ce texte, je pensais à un autre poète, Francis Giauque. Francis Giauque, qui avait été interné en psychiatrie et qui avait subi ce que l'on faisait à l'époque, hein, c'est-à-dire tout un chapelet d'électricité, et qui avait écrit un poème terrible où il disait: Seigneur, j'espère que tu existes, parce que si tu existes, je pourrais alors venir te cracher à la gueule. Voilà. Il disait ça. C'est-à-dire, la souffrance de Francis Giauque avait été telle qu'il se rapprochait de Dieu, justement, pour avoir à faire ce reproche à Dieu. C'est extraordinaire. Hein. Et là, dans ce poème, évidemment, de notre temps, d'une autre forme aussi, de Philippe Pichon, il y a aussi cette interrogation vers Dieu, mais ce reproche aussi, une espèce de reproche vers Dieu. Créer. Tous ces mondes créés pour être sanctuaires, mon Dieu, tu les voulais de splendeur habitées. Tu les as modelés tous avec ta lumière et baignés dans les eaux de ton éternité. Les fleuves et les mers, calmes ou tourmentés, de tes sources du ciel, eau vive sur la terre, reflètent tour à tour les ombres, les clartés qu'interroge notre âme au-delà du mystère. Force de flamme vive, haute, dévorante, sur des lointains de vie où rayonne le jour, le sang de l'univers brûle d'âmes vivantes, toute une multitude est un volcan d'amour. Et ces mondes créés pour être sanctuaires de ta divinité brûlent de même feu, reflétés au miroir de tes eaux de lumière. Car même la révolte, en ses cris douloureux, est un appel d'amour jeté dans la prière. Philippe Pichon. Nuit pascale. Ton jour est-il venu, Seigneur ? Où sont les clous ? Où est la croix ? Le printemps court par les buissons, mais quel vent froid pour la saison ! Pierre se réchauffe à un feu de broussailles, et les hommes sont là, dans cette affreuse nuit. La servante ricane en désignant l'apôtre. Pierre, ton reniement pèse moins que les nôtres. Les pharisiens têtus sont toujours parmi nous. Notre orgueil satisfait nie encore l'évidence. Et c'est toujours le même drame à rejouer. Et le cœur du même Jésus qu'il faut percer. Homme, voici ta faute et l'arbre du calvaire, la foule déchaînée et le jardin désert, le baiser de Judas, livrant l'agneau pascal, le temple profané par la concupiscence, les cailloux du chemin qui mène au Golgotha, le visage sanglant qu'éponge Véronique, et les soldats qui tirent au sort la tunique, le ciel tout noir en plein midi, le centurion qui pense que cet homme était le Fils de Dieu, les morts ressuscités qui s'en vont par la ville, l'éponge et le roseau, le fiel et l'aloès, et ce grand cri final du Christ abandonné. Mais la pierre qu'on roule à l'entrée du sépulcre éclatera demain dans le premier soleil, et les femmes de grand matin, tout éplorées, verront l'ange debout à deux pas du tombeau, chanter l'Alléluia du Christ ressuscité, qui, vivant déjà, les précède en Galilée. Philippe Pichon. Le sang du Christ. Je ne sais si je crois en toi, Christ, mais ton sang coule dans mes veines depuis plus de 2000 années. Aucune exsanguination même ne m'en viderait tout à fait. Irriguant déjà mon fœtus, toujours présent, je te retrouve, ruisselant la nuit dans mes rêves. J'ai beau me laver, tu me poisses. Et je sens ta puissante odeur. Je la respire sur les fleurs, sur la peau de la femme aimée. Pendant que le monde s'enfonce, pris du vertige du néant, dans les abîmes de l'horreur, ah, qu'une goutte de ton sang puisse arrêter l'hémorragie des peuples fous qui s'entretuent et réchauffer les cœurs frileux contre le froid du désespoir. Poème terrible. Terrible parce que il y a une authenticité absolue chez Philippe Pichon. Effectivement, il y a toujours, pourquoi mentir ? Il y a toujours le doute de la foi. C'est peut-être ça dans le fond, la foi aussi. C'est pouvoir douter. Et il y a cet appel bien sûr au Christ. qui serait tellement utile dans l'hémorragie des peuples fous, hein, comme il dit Philippe Pichon, qui s'entretuent. Et au moment où je vous parle, on en est toujours là. On en est toujours encore là. Seigneur, qui plante des croix d'or au carrefour noyé de pluie, qui du feu chauffant la tanore fait de la flamme ou de la suie, qu'on verra seul le dernier soir, qui peut-être plus fort nous aime, quand nous perdons par désespoir jusqu'à l'estime de nous-mêmes. Garde tout ce qui nous est cher et veille sur nous d'âge en âge pour que le chemin reste clair quand au loin gronde un ciel d'orage. 1. Je marche et je voudrais peser ce cri d'oiseau aux balances trop sûres de ma mémoire, frémir encore à ce désir sacré de l'herbe et n'être que la fleur en puissance de fruit, mordre la terre avant ce baiser qui étouffe, boire la vie avec les lèvres de la soif, presser ce sein où bat un cœur en cage avant la nudité suprême et sans émoi. Vérité simple, aux seuls yeux de la chair, larme de joie, où fileront des larves, qui peut répondre à ce cri des vivants, puisqu'aussi bien les morts n'ont plus d'oreilles. 2. Où est la paix promise à tant de morts, quand la vie hurle au bord des cimetières, dans le vacarme des usines et des trains, ces crânes vides sont autant de grelots, sonnant le creux toujours plus profond de la vie. Philosophe menteur, où est votre raison? Un peuple d'os craque sous chaque arpent de terre, et les cloches là-bas sonnent sans fin ténèbres. 3. Mère du temps, génitrice de songes, Ève, déjà lisez dans son miroir le nom secret de ton hideux visage, sous l'arbre noir où guettait le serpent. Espoir déçu qui creuse des abîmes, l'ange brandit un glaive de soleil. L'homme angoissé regarde sa compagne, se trouve seul et tremble dans la nuit. Où est la joie au jardin de délices, l'amitié de la source et des oiseaux, les fruits, les fleurs cueillies dans l'innocence, l'homme créé à l'image de Dieu? Ève, soudain frémit de se voir nue, comprend sa faute et le cycle du sang qui la fouaille et déchire son ventre pour chaque vie arrachée au néant. Voici venir la fin de toute science, l'arrière lourd aux mains qui l'a blessée, la terre ingrate et le poids des saisons et ce sommeil qui n'est pas même oubli. L'homme s'arrête et regarde sa tombe vaincue. Le ciel est plein d'oiseaux de proie. Il désespère. Il lutte encore. Il cherche une réponse au silence de Dieu. Voici la mort, comme un vieux camarade. Je te connais, visage familier, qui vient danser l'ultime mascarade où nos deux pas sont à jamais liés, fleuve profond dont nul ne voit la rive, qui peut savoir le vrai prix du passage? Fou, qui prétend le trouver dans les livres quand la réponse échappe même aux sages. 4. Dès lors, je te salue, Ève, de la promesse dont le pied nu écrase le serpent. Dieu te confie, ô divine faiblesse, la faute du premier Adam. Pays de Chanaan, où pleut l'alme rosée, la mort va-t-elle ouvrir cette porte scellée dont il faut à chacun franchir le seuil amer pour voir enfin jaillir l'eau vive du désert. Terre, ma terre, imprenable royaume, vigne du Père où se dresse une tour, la grappe ne saurait exhaler son arôme sans être triturée au pressoir de l'amour. Le temps nous ronge, et la mort, qui chemine à nos côtés, sème ses cailloux noirs. Nul ne sait l'heure où le doigt et l'avoir seront pesés pour nous aux balances divines. Ah ! Qu'il suffise à ceux qui désespèrent, quand nul écho ne répond à leur voix, de regarder ces milliers de lumières vivre et trembler d'espoir à l'ombre de la croix. Philippe Pichon. À toutes gens, en joie, je demande merci. À toutes gens, en joie, je demande merci pour toutes gens en peine, pour toutes gens sans fleurs et sans fontaines, sans aube, sans hasard, sans promesse d'été, sans lieu fixe et sans droit de cité. Pour toutes gens qu'un nom n'a pas couvert d'une assurance d'être, qu'un vol de proie a rejeté. Pour toutes gens en mal de croire, en mal d'aimer, en mal de ciel, d'océan, de planète, d'oiseaux et de naïveté. À toutes gens, merci pour tous et pour eux-mêmes. Ralliés dans l'angoisse anonyme de vivre, le front bas devant les prodiges, dans la peur d'une mort au fait des puissances, d'une mort trop folle d'orgueil, de n'être pas la mort des bêtes et des plantes. Tant des hommes sans origine, nous ne voulons être créés que de nos forces. Tant des bourreaux, nous sommes nos victimes. Tant du refus, nous subissons nos réprouvés. Tant du bonheur, nous n'avons pas d'enclume pour tes forges. Il nous faudra rester encore là, à nous attendre, pendant nos saisons de croissance, pendant nos heures de déclin. Oh, que lève en nos flancs la sève des jardins, que la forêt nous cerne et nous prenne à la gorge, que l'océan marque nos nuits de ses atolls, que le fleuve nous porte au-delà des révoltes, et que Dieu nous absolve en soufflant sur nos mains. Philippe Pichon. S'approcher du silence et mourir comme l'on se tait, aux éditions André Vénat. Ainsi s'achève notre émission. Sur des mois, nous disons à la semaine prochaine, à Dichast.